Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 8 septembre 2007, il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
FMR s'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer... Non, réussissez
maintenant.
Bah super, le supplément week-end, la rentrée, BD, ciné, TV, DVD.
Et suivi de...
Du sport, les résultats sportifs en direct des larmoyeurs.
Et ensuite
17h, Big Bang, 18h, vide ordure, 19h, on est chez nous, c'est l'apéro, 20h, la CTO Experience, 21h30, stay tuned, et à 23h, du live avec le potager. Vous êtes sur FMR 89.1 MHz. Enfin, vous y êtes, nous on y est encore. On sait pas après, cette année, il risque de tout arriver, voilà. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Bonjour Thomas.
Bonjour Xavier.
Super la rentrée là, t'as amené ton cartable toi aussi j'ai vu.
J'ai amené mon cartable avec mes bouquins et ma trousse et tout.
Ah bah moi alors t'as vu tu vois, j'ai un agenda Heroes, j'ai les petits stylos Spider-Man 5 déjà en vente. Et d'ailleurs après j'ai même plein de stickers Ghost Rider.
Ah ouais, les stickers Ghost Rider.
Ah, c'est trop chouette, les stickers Ghost Rider. Allez, on s'en fout, Corner Shop, Brimful of Asha. La version remix du single.
Well, it's a brim full of Asher on the 45. Well, it's a brim full of
Ouais, je disais qu'on allait faire une rentrée d'exception, qu'on allait tous se permettre cette fois-ci, on va même se permettre en plus de même pas rédiger nos articles et d'aller piocher directement sur le web, c'est vous dire jusqu'où on va. On a dit qu'en plus on allait, on est actuellement en tractation avec la radio, puisque la rentrée n'est pas encore faite officiellement pour le reste de la radio. Mais ça s'annonce serré cette année, voilà. Pour des raisons qui nous sont légèrement indépendantes de notre volonté. Et après tout, tant mieux, ça nous motive pour faire quelque chose de beaucoup mieux. Aujourd'hui, nous avons deux bandes dessinées, une qui fout vraiment un malaise et un autre qui foutrait vraiment un malaise si vous l'offrez à un gamin. On a une BD où les questions qui, il ne vaut mieux ne pas avoir de malaise, et un film, pardon, où il est question qu'il vaut mieux ne pas avoir de malaise, et excuse-moi Thomas, et un DVD où il y a un malaise parce que le héros est un peu trop héros, mais ça on en parlera tout à l'heure. En attendant, c'est du sport qui a le coup de blues, et oui, le coup de boule n'est pas passé quand même hier, mais après tout, on s'est pris une belle leçon de tango, non?
Non, mais il s'en fout du rugby de toute façon, il y a Strasbourg qui a gagné à Toulouse, donc il est content.
C'est ça?
D'ailleurs, il s'est amené avec une casquette Italia.
C'est la provocation. Ouais. C'est la provocation, c'est tout. On est à Radio FMR après tout. Si on n'était pas là pour équilibrer les temps de parole un peu de temps à autre. Ça va, Duss?
Oui, ça va, ouais.
Ouais, avec la chemise hawaïenne, là, c'est clair, ça. Ouh, ça pète, hein. Ne réglez pas la couleur, c'est inutile, hein.
Elle est pas hawaïenne, elle est à fleurs.
Elle est à fleurs. En tout cas, elle est aussi rouge que ta bouteille d'eau. Ceci dit, donc, dans le Super en Week-end, une chose à annoncer, quand même, c'est que il y a du stock pour d'événementiel, notamment chez nos amis de la librairie Album, qui est rue Pérolière. Non, Pargaminière, je vais y arriver. Avec Bézian qui dédicacera Les Garde-Fous, c'est son nouvel album, c'est un one-shoot chez Delcourt, vendredi 21 septembre. Même jour, même lieu, Lucie Chenu est directrice de publication de l'anthologie Procréation, c'est aux éditions Glyph. C'est un recueil de nouvelles autour de la fantaisie avec Estelle Valls de Gomis, Pierre-Alexandre Sicard et l'illustrateur Sébastien Berme qui a réalisé donc la couverture. On les aura sur le plateau peut-être, je n'en sais rien encore. Fabrice Labrousse et Francis Schall, eux ils viennent le vendredi suivant, sont les auteurs de Il était une fois la guerre des étoiles, la galaxie George Lucas. Ça, je crois que Thomas sera super intéressé, donc ça va être ton sujet.
C'est un bouquin ou c'est une BD?
C'est un bouquin.
D'accord.
C'est un bouquin sur la production, les droits dérivés, tout le reste, donc on te laisse dessus.
Un parmi les nombreux, hein, déjà paru.
Oui.
Faut dire qu'il y a une licence autour de la licence, c'est clair. Et Tony Valland dédicacera Les Quatre Princes de Ganahan. C'est une série qui sort chez Delcourt de fantasy, scénarisée par Raphaël Drommel-Schlager.
Bravo.
Ce sera le vendredi 13 octobre chez Album. Et en attendant aussi, on peut signaler que le 6 octobre, il y aura un salon de la bande dessinée à Toulouse. Un de plus, mais au profit des enfants handicapés. Et là, on en reparlera. On aura donc les organisateurs sur place. Je veux dire sur place dans nos studios. Mais non, on se démène, on se bouge comme on peut, voilà. Contrairement à ce que certaines rumeurs peuvent faire croire.
We'll be right back.
On va commencer avec une série, franchement, qui m'a foutu mal à l'aise. J'avais un peu de mal quand je l'ai reçue à l'ouvrir, à le lire, parce que j'étais tombé sur les pages au hasard. Finalement, ça dépend sur quelle page au hasard on tombe. C'est d'après le roman de Shōzō Numa, qui est un roman qui est sorti en 1953. Le détail est d'importance. Et cela a été adapté en manga, puisque c'est un roman de science-fiction japonais, dessiné donc en manga et adapté par Tatsuya Egawa, Yapu, Bétail Humain. Le premier tome donc vient d'être traduit en France chez Kami. Ça se passe dans les années 1960, dans une forêt de l'Allemagne de l'Ouest, vous savez, la RFA. Un couple fait une virée en cheval, Clara, une belle Allemande, blonde, assez grande et autoritaire, et Seb, un jeune japonais costaud, un petit peu trapu, et qui est un peu mal à l'aise avec la cravache et l'éperon sur le cheval. Ils vont bientôt se marier, mais consomment déjà leur union dans une petite cabane, quand un vaisseau spatial s'écrase juste à côté d'eux. Clara est encore habillée en tenue d'équitation, mais Seb est complètement cébé, est complètement à poil, et du coup se prostré un peu, quoi, parce qu'il est un peu honteux. Il se retrouve face à Pauline, une femme noble de HS et l'Empire terrien du 40e siècle, et c'est elle qui a conduit ce vaisseau spatial. Une époque pas franchement libérale, car si les femmes sont enfin au pouvoir, elles ont surtout rétabli l'esclavagisme. Certains humains, qu'on a parqués dans un ancien archipel, sont élevés comme Yapu. Ils sont castrés, charcutés, esclavagisés, pour être transformés en bêtes de compagnie, en repose-pieds ou en tout autre meuble vivant, vaguement intelligent, je dirais plutôt ayant des réflexes. Gros souci, Pauline se méprend complètement devant le couple du 20e siècle, croyant avoir affaire à une de ses pères avec son esclave pas encore transformé. Alors le graphisme n'est pas franchement exceptionnel, les individus sont plutôt bien dessinés, c'est-à-dire il y a quand même une certaine maîtrise sur le dessin des personnages, mais après les décors sont vraiment réduits à leur plus simple expression à l'intérieur du vaisseau spatial. Mais l'histoire a tout de dérangeant. On a vraiment un malaise à lire ce livre, où ils détruisent des corps, ils les corrompent, ils les resculptent pour les obliger à la servitude, ils tuent le libre arbitre et l'âme uniquement pour transformer des êtres humains en, finalement, en accessoires de plaisir, en accessoires de confort. En fait, on est complètement déboussolé si on ne connaît pas le contexte du roman de science-fiction d'origine. Celui d'une révolte, d'un romancier, devant l'humiliation du Japon après la défaite de 1945, qui vit la famine avec un peuple qui mendie la nourriture auprès des occupants américains et qui souvent n'avait à manger que des restes. Le peuple japonais se sentait traité à l'époque comme sous-homme devant l'opulence du vainqueur. Une angoisse qui manque pour désamorcer justement la violence morale de l'histoire, mais elle est expliqué mais en postface, c'est-à-dire si on manque la postface, et ben on est complètement à côté du bouquin. Shōzō Numa et Tatsuya Egawa, Yapu, Bétail Humain, le premier tome donc vient de sortir chez Kami.
C'est une BD qui n'aurait pas déplu à certains de mes profs de beaux-arts.
Pourquoi ? Parce que fille à poil, usage artistique détourné à des fins sexuelles.
C'est plutôt ça, puisque j'avais
une performance physique.
Nous avions un prof qui, à défaut de faire cours, nous passait tous les ans le film Salaud, les 120 journées de Sodome de Pasolini, et c'était son plus grand kiff de voir la tête des étudiants quand il le découvrait.
D'accord. Et cette personne est encore en poste à l'éducation nationale.
Ah oui, tout à fait.
Putain, heureusement que la droite est passée. Hein.
Ouais. Non, parce que pour la...
Ça va, ils sont majeurs à vacciner les étudiants.
On a attendu presque deux décennies pour la ressortie en salle,
oui,
du film.
Mmh.
Faut le préciser.
Oui, quand même.
Mais l'année où c'est sorti en salle à Toulouse, il a dit, bon, je vous le passe pas dans la classe, vous allez le voir au cinéma, vous allez voir, c'est génial et tout.
Heureusement, les étudiants, ils ont Internet maintenant. Juste une chose, d'ailleurs, justement, à propos de ce bouquin, Yapu, Bétail Humain, a été traduit en France il y a 2 ans à peu près. J'oubliais chez quel éditeur il a reçu le prix SAD. Voilà. Je parle du roman, hein, pas du manga. complètement autre chose, mais toujours dans le manga. Daisuke Nijishima Diembien Fu. C'est dans la collection Made in chez Kana. On est en 1965, les États-Unis sont rentrés ouvertement dans les guerres qui secouent le Vietnam depuis plus de 25 ans, et même carrément, on explique d'ailleurs très bien dans le bouquin, depuis deux millénaires. Ils ne se doutent pas encore qu'ils viennent de mettre le pied dans un bourbier, un merdier même, Full Metal Jacket. Mais déjà, les soldats se comportent en pays conquis, charognards, violents, assassinant parfois gratuitement des civils, mais sous la peur continuelle d'une action Viet Cong. L'ennemi n'étant pas une armée régulière, il n'utilise pas les techniques de combat qu'on apprend dans les casernes. Ikaru est un jeune américain de 17 ans, trop petit pour combattre, trop jeune pour la plupart des autres recrues. Il est employé comme photographe au service de presse de l'armée. C'est pas un très bon photographe, mais c'est mieux qu'être un mauvais sniper. Le destin d'Ikaru va basculer devant la violence des combats, mais aussi la brutalité de ses confrères d'armes. Et son cœur va chavirer, à défaut d'être transpercé au couteau, le jour où il croisera une fillette de 14 ans capable de tuer une patrouille de GIs au couteau. Miraculé d'un tel massacre, il pourrait être accusé d'espionner pour les Viet Cong. Doit-il déserter, rester ou chercher la fille ? Des visages ronds, de grands yeux, des combats hyper dynamiques et le sang qui éclabousse des planches. Un graphisme très naïf, camouflant d'autant mieux son jeu que les scènes de combat sont particulièrement violentes. Et quand l'histoire bascule, on est littéralement déconnecté par la beauté des bastons, totalement irréel. Faussement enfantin et gentil sur la couverture, et pourtant c'est quand même assez brusque et sanigolant à l'intérieur. Diembien Fu de Daisuke Nijishima, ça vient de sortir dans la collection Made in chez Kana. Et Made in est une collection adulte, je le rappelle. Midi 17 minutes et 55 secondes sur l'horloge atomique de Radio FMR. Non, on ne pourrait pas vous cacher, ça va, elle n'a pas encore explosé. Juste une chose pour vous signaler, c'était sorti bande dessinée. Vous pouvez retrouver l'ensemble des chroniques sur le site internet de l'émission. Vous cherchez supplément week-end, podcast, MP3 ou FMR. Vous tombez sur nous, si vous cherchez dans Google, dans Yahoo, dans MSN, pas de soucis. On est parmi les premiers. Vous cherchez supplément week-end et MP3, puisqu'en plus on peut télécharger les anciennes émissions. On compte aussi sur vous pour nous poser des questions sur des bouquins, sur des films et tout ça, ou des séries télé. Ce sera un plaisir de vous répondre. Hein, je pense. Ok, Thomas, je te sens chaud. La chronique cinéma vous est présentée en Dolby Mono Surround par Thomas.
Et aujourd'hui, nous allons parler justement d'un film où il fait pas bon être malade dedans. C'est Psycho de Michael Moore, plongé absolument sidérant dans le système de, au cœur du système de santé américain. C'est Michael Moore, on aime ou on déteste. Enfin, en tout cas, les témoignages qu'il trouve, il les invente pas. Le film commence par des témoignages de familles complètement ravagées par le système d'assurance aux États-Unis, puisque faut savoir que là-bas les cabinets d'assurance essaient avant tout de faire du profit. Donc il y a plusieurs termes dans le film où il interviewe des anciens enquêteurs mandatés par les assureurs qui n'hésitent pas à parler de sinistre quand il s'agit de qui est un assuré qui bénéficie d'une exonération et tout. Donc oui, Xavier.
Juste une chose, parce qu'on entend souvent parler dans les films, dans les séries et dans les news, comme quoi les Américains ont un numéro de sécurité sociale. Il est très différent du numéro de sécurité sociale en France, quoique, puisqu'en France il a été instauré par Vichy pour ficher les gens, et en fait aux États-Unis c'est un numéro de fichage. Ça n'a rien à voir avec une quelconque sécurité sociale. Ce qu'ils appellent la sécurité sociale là-bas, c'est la sécurité intérieure. D'accord. Voilà, c'est le ministère de l'Intérieur.
Ouais, ouais,
c'est très différent.
Ils n'ont pas de carte d'identité, c'est à peu près le seul document d'identité qu'ils ont. C'est, y a pas de carte d'identité aux États-Unis, quoi, en fait.
Voilà, c'est un élément qui est assez important pour tout ce que tu vas dire à partir de là.
Mmh. Et donc c'est vrai qu'on a des témoignages assez saisissants d'anciens employés des cabinets d'assurance qui disent oui, de toute façon, nous, à partir du moment où on accepte d'assurer quelqu'un, ben, pour nous, c'est un sinistre, on perd de l'argent. Et au contraire, si on arrive à ne pas indemniser quelqu'un, eh bien, on est récompensé, on a une augmentation, on a la promotion à l'intérieur de l'entreprise. Et moi, je suis médecin, mais en ayant refusé l'aide à plusieurs personnes, eh bien, j'ai pu grimper au sein de mon cabinet d'assurance. Donc voilà, il y a des témoignages assez édifiants comme ça. Il y a aussi, bon, Michael Moore, il utilise aussi la veine comique aussi dans ses films pour un peu pas dédramatiser, mais justement faire le contrepoint. Et il y a une séquence absolument à hurler de rire où il parle des maladies qui n'entrent pas en compte dans les maladies qui permettent aux patients d'être indemnisés. Et donc, il y a un listing absolument sidérant de maladies et ça défile comme un générique de Star Wars en jaune. Alors, juste Léa, ça fait tout le générique de Star Wars quasiment, et après, ça passe en accéléré, les B, les C, toutes les maladies. Quoi. Et donc en fait il est assez difficile de se faire assurer là-bas, surtout que si on arrive à passer dans les mailles du filet et que la maladie entre en ligne de compte, et bien il y a un deuxième enquêteur ensuite qui arrive pour essayer de choper entre les lignes, là où par exemple un patient aurait oublié de déclarer une mycose quand il avait 8 ans. C'est dommage, hein. Voilà, il y a eu aussi un exemple où il y a un mec qui a un accident de travail, il manipule une scie, il se coupe les doigts et l'assurance lui dit, bon ben, pour récupérer votre annulaire, c'est tant de milliers de dollars. Pour le majeur, c'est tant de milliers de dollars. Bon ben, vous faites un choix. Quel doigt vous voulez récupérer? Ah, c'est des trucs comme ça qui font assez froid dans le dos dans le film. Ensuite, Michael Moore, il se cantonne pas juste au système de santé américain, puisqu'il va comparer un peu aux autres pays. Donc il va d'abord au Canada, puisqu'il suit quelques Américains qui vont se faire hospitaliser là-bas parce que c'est gratuit. Après ils reviennent. Les systèmes anglais aussi, puisque les hôpitaux publics anglais, à un moment donné, Michael Moore qui pose des questions, il dit mais c'est où que vous payez? Mais on paye pas, c'est gratuit. Comment? Alors il fait la visite de l'hôpital. Ah, j'ai trouvé, caisse. Mais l'argent il va dans le mauvais sens. Et en fait c'est le mec qui rembourse les patients pour les frais de déplacement. Ah, mais votre caisse elle fonctionne à l'envers. Voilà, c'est plein de détails comme ça. Et c'est subtilement amené. Par exemple, il compare une mère de famille qui a dû voir sous ses yeux quasiment son fils, son petit enfant mourir parce que le cabinet d'assurance voulait absolument qu'il aille se faire hospitaliser dans l'hôpital affilié à l'assurance et pas à un autre. Donc il a dû quitter un hôpital où il était sur le point d'avoir des soins et il est arrivé trop tard à l'autre hôpital, il est mort. Et il y a un comparatif avec une autre mère de famille exactement dans le même cas, et l'enfant a pu être sauvé. Et oui, sauf que elle vit en France. Et là, c'est le passage de la France. Donc évidemment les Français, ils se prélassent sous le soleil au pied de la Tour Eiffel. Alors il fait un repas avec des Américains qui vivent à Paris. Comment ça vous avez des congés? Ben 5 semaines de congés payés. Comment? Ben ouais, on a un jour de récupération pour les déménagements, tout ça. Mais vous devez crouler sous les impôts. Alors c'est là qu'il y a un peu le défaut du film, c'est que bon, les impôts sont complètement passés à la trappe. Ouais, donc j'ai foutu les Français, c'est parfait votre système.
Ouais, oui, de même que le système anglais où en fait on est tributaire d'un médecin référent et d'un hôpital référent, ce qui revient un peu justement au système américain pour les assurances, quoi. Donc.
Mais là où il y a le meilleur moment du film, le plus édifiant, c'est que Michael Moore, il sort en scène aux États-Unis, mais il y a aucun endroit aux États-Unis finalement où on peut se faire hospitaliser gratos. Et là, il tombe sur des anciennes interviews des responsables du camp de Guantanamo, où il se justifie non, les prisonniers sont pas maltraités, on a les outils de d'opération de dernier cri, ils peuvent se faire opérer, les trucs chirurgie totalement gratuits, ils sont vus, il y a des prises de sang quasiment toutes les semaines, ils sont régulièrement suivis, tout le gouvernement prend en charge les produits médicaux et tout. Alors Michael Moore, il dit bon ben je vais réunir tous les témoins de mon film et puis on va les amener au seul endroit aux États-Unis où on peut se faire hospitaliser gratuit. Donc il prend une vedette et puis il va à Cuba.
Oui, parce que Guantanamo, on rappelle que c'est une enclave américaine dans Cuba.
Voilà. Et donc ils sont arrêtés par la tourelle de surveillance, des mines qui sont dans l'eau et tout. Bon, ben visiblement on peut pas passer. On va aller à Cuba parce qu'on on va pas rentrer maintenant. Et ils vont à Cuba et puis ils vont dans un hôpital. Déjà il y a une mère parmi les témoins qu'on avait vu auparavant dans le film qui s'écroule d'ampleur parce qu'elle constate que les fameux médicaments qu'elle peut pas s'offrir aux États-Unis, ben ils coûtent 5 pesos là-bas. Plus de 95% moins cher, donc elles font en larmes et disent c'est pas possible, le pays américain est malade, c'est pas possible. Et là ils se font tous hospitaliser gratuitement. Donc il y a même, alors quand même le plus fort, c'est qu'il avait amené parmi les témoins à Guantanamo des héros du 11 septembre, des gens qui avaient bénévolement contribué à l'aide pour les travaux et tout,
et qui souffrent de maladies principalement à la plèvre et aux poumons à cause de l'amiante et des fibres de fer qui ont été relâchés pendant l'effondrement des tours.
Tout à fait. Et même un mec qui grinçait les dents de stress depuis le 11 septembre et qui a la mâchoire complètement ravagée. Et puis il a bénéficié de soins gratuits au pays du grand Satan, où il y a même un photomontage où Michael Moore il hésite pas à mettre de l'animation et tout. Voilà. Et au pays de Fidel Castro, donc c'est le point d'orgue du film.
Et qui est pourtant situé deux places en dessous des États-Unis sur la qualité des soins selon le classement de l'OCDE.
Voilà. Et donc le point d'orgue du film, c'est toutes ces familles et ces personnes, ces témoins qui ont été ruinés, qui ont été au bout de certains ils ont été anciens cancéreux et tout, ils arrivent à se faire soigner à Cuba, et c'est là le film se clôt quasiment sur ça, sur le happy end où ils ont été obligés d'aller à Cuba pour aller se faire soigner gratos. Donc le film est assez on est partagé entre l'horreur et la comédie, parce que franchement on se poile aussi devant, parce que Michael Moore il a un sens du comique assez prononcé, et il est assez fort le mec, parce que il a réussi à alterner les scènes les plus drôles suivies des scènes les plus glauques possibles. Par exemple, quand il fait son périple à l'étranger où il finit par la France, juste après, où il y a une chanson de Gainsbourg tout à fait légère, on voit les nanas françaises, il fait chaud, voilà. Et le plan d'après, on voit une caméra de surveillance à New York, où il y a une grand-mère qui est lâchée par son taxi à la demande de l'hôpital, qui dit vous la lâchez dans la nature, et puis et donc elle est errée, elle savait pas où elle était, et le taxi lui dit bonne chance, et puis il se casse. Et on le voit sur une caméra de surveillance qui est juste à poser juste après la séquence à Paris. Donc le mec il a un sens du rythme et un sens de faire cohabiter des scènes de genre complètement opposées, ça te fait respirer dans le film, prendre du recul pour la séquence suivante qui va t'achever encore plus. C'est un film à voir qui est sorti mercredi dernier, Psycho, une plongée terrifiante au cœur du système de santé américain, de Michael Moore.
Alors juste une question vis-à-vis de la chronique qu'il y a dans la Gazette de l'Utopia, qui une fois de plus, Utopia quand même c'est leur droit, ils ont quand même leurs opinions et tout ça, mais des fois ils y vont un peu trop fort. Est-ce qu'on peut aller voir le film de Michael Moore sans être franchement d'accord avec tout ce que déblatère la Gazette de l'Utopia en finale de leur chronique?
Moi je n'ai pas vu la Gazette parce que je suis allé voir le film au Gaumont.
D'accord,
donc c'est au Gaumont.
Voilà.
Mais je n'ai pas lu justement la.
Donc voilà, donc il y aura un instant lecture, mais ce sera après l'émission, bien évidemment.
Et puis il y a plein de.
C'est vrai que là-dessus, Michael Moore, on l'a accusé de pas mal de choses, de manipulation. Et c'est vrai que le précédent film, autant la première partie était très très bien réussie, autant la seconde a été complètement bâclée pour qu'il puisse sortir à temps à Cannes. Et là, on sent vraiment qu'il y a des éléments qui sont complètement passés à l'as. Justement, les contraintes du système anglais, les contraintes du système français, on en a quand même quelques-unes, elles ne sont pas négligeables.
Disons que la partie témoignage, c'est impossible de manipuler ou quoi que, mais c'est impossible de dire on va pas parler de tout ce que vous avez, les avantages que vous avez eu et tout. Et par contre c'est vrai que quand il fait un portrait de l'Angleterre ou de la France en idéalisant au possible, c'est vrai que le film est tellement fort et pertinent sur certains points. Par exemple, il est revenu aussi sur l'origine de ce système de santé américain. Donc évidemment, toutes les mauvaises idées, c'est venu du diable en personne, Nixon. Et donc là-bas, ils ont un gros passif contre Nixon. Donc tu vois, c'est toujours assez rigolo.
Parce que c'était Nixon qui avait dit « Je promets aux États-Unis le meilleur système de santé. »
Voilà, exactement. Et quand Hillary Clinton a voulu le changer un petit peu pour s'inspirer un peu du modèle français, donc il a tourné le film comme il y a la faucille et le marteau qui arrive, c'est un système de santé socialisé, c'est n'importe quoi.
C'était à l'époque où justement les deux chambres des États-Unis étaient républicaines. Donc un peu de mal quand même pour le président justement à passer là-dessus. Enfin bon, Psycho donc.
Oui, Psycho de Michael Moore, et donc c'est sorti mercredi.
Psycho.
Psycho, ouais.
Hein, parce que Psycho c'est malade mental et Psycho c'est malade tout court.
Okay. Et le O alors c'est juste pour
non, c'est les abréviations. Hein, c'est,
d'accord.
Voilà, c'est sick normalement. Comme qui veut dire malade. D'accord. Et on rajoute O.
Comme dingo ou dingo.
Voilà.
Ou Psycho Michael, non.
Exactement, Psycho Michael. Non, ce qu'on peut ajouter aussi, hein, c'est que on parlait justement, tu parlais en préambule de cette critique de film, de ce sujet qui a déjà été traité. Il faut quand même souligner que dans pas mal de séries américaines médicales, hein, je parlais d'urgence, je parlais également de Chicago Hope, hein, c'est un problème qui est récurrent, quoi. C'est-à-dire que bon, systématiquement, on sent que les auteurs, on sent que les scénaristes de ces séries, eh bien, poussent un petit peu le bouchon là-dessus, quoi, de telle manière à ce que les gens comprennent un petit peu comment ça fonctionne, et surtout les gens vont regarder la série à l'extérieur, parce que bon, pour les ricains, il ne fait aucun doute qu'ils sont au courant de ce qui se passe.
Les artistes sont communistes et Hollywood est démocrate. Hein,
Mais enfin bon, tu sais, Urgence n'est pas fabriquée à Hollywood, donc bon, voilà, non, il faut quand même mettre le point dessus. Parce que c'est vraiment le truc récurrent. Hein. Il n'y a pas un épisode pratiquement dans Urgence où.
Pas question de la rentabilité.
T'as le cas de mais est-ce qu'il a sa mutuelle, est-ce qu'il a son assurance, pour les soins, et là ça fout le gros bordel à chaque fois. Non, mais on va le soigner quand même. C'est un problème récurrent qui est vraiment traité justement dans ces séries qui ont fait d'ailleurs une partie du succès de ces séries, hein, qui se veulent un petit peu critiques quand même à l'égard du système médical américain.
J'ai pas encore lancé la rubrique Troll, c'est une nouvelle rubrique dans cette émission. On a dit qu'on avait un site internet dans cette émission depuis les débuts, avec tout ce qu'il fallait avec. Et ben maintenant on va y aller, on va se chercher maintenant les infos sur le net. C'est pas nous qui les écrivons, c'est des millions de singes qui écrivent dans les forums à gauche, à droite. Ainsi lu ce matin sur Slashdot cet article assez amusant, c'est G.I. Joe n'est plus le vrai héros américain. C'est une question qui est posée par Advocate et qui dit que Hollywood a clairement oublié que G.I. Joe, le vrai héros américain, symbolisait à l'origine le soldat américain de la Seconde Guerre mondiale, qui était quand même une génération assez importante pour notre histoire et pour l'histoire actuelle. Maintenant, les célébrités d'Hollywood vont en faire une force d'action internationale multiculturelle affiliée à aucun État en particulier. Est-ce que rien n'est sacré pour ces gens-là ? Et évidemment, c'est les répliques qu'il y a dans le forum qui sont à hurler de rire. Je rappelle que Slashdot est un forum exclusivement de geeks où ça parle que d'informatique. Et là, pour une fois, on parle de vieux jouets qu'on a tous eu à notre enfance. Enfin, les garçons ont eu
ça. Ça existe toujours. Hein.
Ça existe toujours. Alors, il y en a un qui a répondu « Rien n'a jamais été, entre guillemets, sacré pour Hollywood. Les légendes ont été, je ouvre les guillemets, réimagées. » Et en général, elles ont été complètement massacrées. L'histoire a été re-imagée et complètement massacrée. Les films classiques ont été vous notez pas comme quelque chose. Et juste après, il y en a un qui répond, j'ai le mauvais pressentiment que Jerry Bruckheimer, Michael Bay, Hugh Ball ou W.S. Anderson vont réaliser ce qu'ils vont réaliser comme film. Et cela est potentiellement la première, ce qui va faire potentiellement de Team America World Police la première parodie au monde d'un film sorti après, antérieurement à l'original.
Non, postérieur, later.
Film, enfin, chronologically, later film. Donc c'est la parodie sortie avant d'un film qui sortira après.
Oui, le film sort après.
Voilà, oui, non, mais j'ai parodie. Un peu adapté la phrase, sinon c'est. Donc c'est le moment lancé de Troll. Je ne sais pas si vous avez été d'accord. Thomas, les G.I. Joe.
Je regardais un peu le dessin animé, mais moi j'étais pas.
Oui, c'est vrai qu'il y en a eu.
Ouais, c'est pas extra. Hein.
Non.
du sport, les G.I. Joe, les gamins d'après toi?
Pas du tout, non, non, moi j'étais pas du tout dedans, quoi. Non, 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 non. Mais par contre, en ce moment, il y a Atom qui passe. C'est quand même nettement plus intéressant, hein. Action Teen on Machine, là, c'est un petit peu plus intéressant comme dessin animé. Dans le même genre, mais il faut dire que c'est produit et fabriqué par les Anglais. C'est d'ailleurs le dessin animé pour les enfants qui marche le mieux, hein, en Grande-Bretagne, hein, qui a la plus forte audience. Et faut dire que les histoires sont assez bien traitées généralement, quoi. Ça intéresse pas mal les gamins. Je peux vous le promettre.
On verra s'il sera pire que Transformers. Thomas, la partie DVD.
Oui, donc nous allons.
Attention. J'entends le méchant empereur Ming.
On n'avait pas dit qu'on faisait un top 5 avant? Après? D'accord.
Oh, cette musique qui fait peur.
Quelle est cette planète au fond? An obscure body of the SK system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet
Earth. Ouais, musique qui fait peur.
The Orb qui sample le film Flash Gordon, voilà pour information.
Suite. Alors, 80. Vous allez me dire pourquoi on va parler de la guerre des mondes aujourd'hui de Spielberg. C'est juste parce que j'avais parlé de The Host la semaine dernière, et puis bon, entre temps j'ai vu la guerre des mondes qui est sortie il y a un an en DVD. Aucune actualité, mais bon, c'était sympa de faire un écho au sympathique film coréen dont on a parlé la semaine dernière. Alors c'est évidemment le film de Steven Spielberg, là, le plus récent, donc avec Tom Cruise, Miranda Otto, Tim Robbins, Dakota Fanning. Alors c'est un anti-Independence Day, hein, puisque c'est pas du tout on va faire des plans circulaires autour des lasers avec un super président des États-Unis qui va éviter ces fameux tirs au laser avec son jet privé, enfin son jet de l'armée et tout. Non, pas du tout. En fait, c'est plutôt un film catastrophe, enfin un film d'invasion extraterrestre, mais à l'échelle humaine en fait. Puisqu'on suit une petite famille, un père divorcé avec ses deux enfants. Et en fait, le film est traité sous le thème de l'extermination, puisque bon, comme c'est Spielberg, on devine bien que c'est la métaphore de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, on va pas revenir dessus, mais en tout cas, c'est un éclairage assez nouveau sur les films d'invasion E.T. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Ben, effectivement, le film est assez. En fait, on est partagé entre le reconnaître que le film est assez brutal, et il y a aussi des effets vachement léchés. Spielberg, depuis qu'il a son chef-op, depuis La Liste de Schindler, il fait toujours vachement attention à l'image, comme dans Minority Report avec les blancs sursaturés et tout. Je dis ouais, bon, c'est un effet de mode ou une espèce de signature qu'il a maintenant. Ouais, c'est assez bizarre, mais on va pas trop s'étaler sur le film, mais c'est vrai que il est assez déconcertant, puisqu'on s'attend toujours à ce que ce soit un film avec des explosions de partout. Bon, c'est quand même Tom Cruise et tout, et finalement il est assez intéressant, puisque beaucoup de choses se passent soit hors champ, soit si c'est dans le champ, c'est assez montré d'une façon assez originale. Par exemple, quand pour signifier qu'il y a une grosse extermination de personnes et tout, bon, au départ, pour expliquer comment ça marche, ils sont obligés de montrer comment les personnes sont découpées au laser, tout ça, mais bon, avec une fameuse séquence de réveil des tripodes qui est assez assez bluffante. Et mais après, c'est par exemple, on voit des plaines recouvertes de sang, des plaines rouges. Tom Cruise qui sort de sa cachette et qui voit les plaines rouges, tu dis ah ouais, tu devines ce qui s'est passé. Il y a aussi il voit son fils disparaître dans une immense mur de flammes au milieu des militaires. Voilà, en fait, il y a pas mal de trucs qui sont pas montrés, et on se dit bah, le film est assez pertinent quand même par rapport à le sous-texte qu'il veut décrire et tout. Alors c'est là que le bât blesse, puisque arrive la fin en fait. Et alors la fin, donc à partir du moment où il y a c'est pas un mystère, hein, les extraterrestres ils perdent, à partir du moment où on voit des cadavres des vaisseaux spatiaux, Spielberg ne peut pas s'empêcher de montrer des E.T. à l'intérieur. Voilà, donc on a des E.T. qui sont en train d'agoniser avec les doigts à l'E.T. un peu, voilà. Et à la fin, eh bien, le fils qui s'était fait cramer parmi les autres, eh bien, il revient. En fait, il est pas vraiment cramé, on l'a pas vu mourir finalement. Donc, eh bien, en fait, il est sauvé. Il y a toute la famille qui est sauvée, c'est génial. alors que bah, le film aurait été beaucoup plus fort si effectivement voilà bon la famille a miraculeusement et ça n'est sauf bon voilà bon après Spielberg dans tous ses films a toujours traité de la famille recomposée et là de la famille décomposée qui finalement se recompose ou pas et bon, la fin est extrêmement décevante sur ce point-là. Et puis, l'autre défaut du film, c'est effectivement le casting. Même si, bon, il y a Tim Robbins qui est toujours égal à lui-même, il y a Miranda Otto qu'on a pu voir dans la trilogie Seigneur des Anneaux, il y a la jeune Dakota Fanning qui est assez impressionnante parce que on dirait que c'est un visage avec une expressivité d'adulte sur un corps d'enfant. Elle est assez flippante, la gamine. Et bon, il y a Tom Cruise. Alors, son personnage, c'est un pauvre loser, un père, voilà, qui est divorcé, qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Qui a gagné un salaire de misère, sa maison, c'est une vraie porcherie et tout. Mais c'est Tom Cruise. Mais c'est pas possible. Voilà. Et puis là où le film aurait été bien, c'est que dès le départ, si t'avais vu un acteur qui est abonné au rôle d'ouvrier ou au rôle de loser et tout, ou un peu ventripotent.
Sylvester Stallone ?
Non. Ou même un acteur ventripotent qui a pas le physique de l'emploi, tu te dis là lui il y a pas trop de chances qu'il pète la gueule aux E.T. parce que bon il va juste se borner à essayer de survivre ou sauver ses enfants ou au pire se sacrifier pour eux. Là t'imagines pas une seconde que Tom Cruise va se sacrifier pour les enfants ou c'est pas possible qu'il meure Tom Cruise. Donc c'est pour ça qu'il y a un certain moment où il est sur le point de crever, tu dis c'est Tom Cruise donc voilà. Donc c'est le gros défaut de casting effectivement à part ça, le film vaut quand même le détour parce que, encore une fois, il a le mérite de porter un éclairage assez nouveau sur ce genre ultra codifié qui avait été vraiment balisé par Independence Day. Enfin, bien avant aussi par d'autres productions, mais le dernier fleuron du genre, c'était Independence Day. La Guerre des Mondes vaut quand même le détour et malgré une fin assez décevante, il y a pas mal de qualité à ce film. Donc, c'est un film de Steven Spielberg.
En DVD chez
Paramount.
Ok.
Oui, nous étions en train de disserter sur un film d'E.T. Bollywoodien vu par du sport.
Ah ouais, Jadou,
je m'en fous.
Magnifique.
On a autre chose.
Bon, d'accord. 5.
Alors, avant de lancer 5. Avant de lancer le top 5, on va lire de quoi il s'agit quand même.
Oui. D'accord,
donc,
ok.
Donc, à l'occasion de la sortie de Rogue, le film qui voit l'affrontement entre Jet Li et Jason Statham.
Jason Statham, il a aucune chance.
Tu m'étonnes.
Donc
il y a DVD-rama qui s'est fendu d'un dossier sur les duels inoubliables de l'histoire du cinéma. Donc ils ont établi une petite liste de 15 films, enfin de 15 affrontements. Et moi je me suis permis de faire mon classement dans ces affrontements, même si il y en a certains qui sont pas et je les aurais bien mis volontiers.
Il y a Bebel contre Delon.
Non.
Quelle bande de nuls. Bon d'accord, ok. Du sport maintenant. Non, bon, ok, bon, bah, on y Allez, va. Alors, qui dit 5, dont t'as choisi 5,
voilà, qui dit 5, un petit peu Thomas, je suis sûr que celui que j'ai en tête, il va être dans le top 5.
Ça dépend s'il a été proposé par DVD-rama au début ou non.
Oui. Alors, on y va.
Bon, aucune chance,
alors. Top 5. Numéro 5.
Alors, numéro 5, c'est avec un requin cassé dedans.
Ah, James Bond?
Non, un requin cassé, c'est un requin qui marchait pas.
Bah, les dents de la mer, quoi.
Voilà. Le duel entre Roy Scheider et Bruce le requin. Dans les dents de la mer.
Numéro 4.
Alors, c'est un duel entre un flic qui un flic assez bourru contre un Allemand qui va faire un casse dans le Nakatomi Plaza. Nakatomi Plaza, Allemand.
Platoon.
Non. Le méchant, il s'appelle Hans Gruber.
Die Hard.
Voilà. Doucement, oui.
Numéro 3.
Alors numéro 3, c'est par deux monstres sacrés de l'Actor Studio. Premier affrontement, où il l'unique jusqu'à présent, entre deux gars Hit. D'origine italienne. Voilà, Hit.
Oh oui, énorme.
Numéro 2.
Alors c'est un western avec qui voit un homme à l'harmonica affronter
Henry Fonda, Charles Bronson.
Voilà, il était une fois dans l'Ouest, même si moi j'aurais plutôt mis le bon, la boîte ou le truand, parce que c'est quand même...
Non, l'affrontement final de Charles Bronson, Henry Fonda...
Je ne suis pas d'accord.
S'il vous plaît, on en parlera tout à l'heure pendant l'apéro.
Numéro 1.
Alors, c'est un chinois qui bat un mec qui a terminé Texas Ranger.
Mais c'est Delta Force.
Non, c'est un chinois assez connu qui est mort assez prématurément et
Bruce Lee.
Bruce Lee contre Chuck Norris.
Oui, le Colisée.
Voilà.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors là, il lui arrache les poils.
Alors là, dans la liste de DVD-rama, il y avait Volteface. Il y avait Zatoshi contre Yojimbo, il y avait Full Time Killer, il y avait Le Jeu de la Mort, Bruce Lee contre Hakim Abdul-Jabbar et toute la tour. Il y avait Rocky, Garde à vue.
Oui, quand même.
C'est un affrontement moral, mais par rapport
au reste, c'est vrai que c'est pas tout le même registre. Drunken Master, Duel Sauvage de Chang-Chi et Le Limier avec Michael Caine et Laurence Olivier.
Il s'agissait donc d'un classement fait par DVD Rama et Thomas a fait sa sélection là-dedans.
Et toi, du sport, tu pensais à quoi alors?
Ah bah, à The Blade.
Ah oui, oui.
Forcé. Obligé.
Forcé, obligé.
Alors que DVD
obligé.
Rama arrête pas d'en parler, c'est bizarre qu'il ait pas mis dans la liste.
Bah ouais, bah, obligé quoi.
Moi je sais pas, j'aurais peut-être foutu Akira.
Oui, c'est vrai.
C'est quand même un affrontement, et puis bon, même si c'est une œuvre d'animation, quand même, si vous
voulez. Moi j'aurais mis Sangoku contre Vegeta, merde.
Thomas. C'est l'heure de du sport. Et il est 12h47 pile sur l'horloge atomique de la radio. Du sport. Je crois que tu vas parler de polar.
On va commencer par une petite lecture. Un peu de poésie dans ce monde de brut. Juste avant que le soleil n'éclate au-dessus de l'horizon du golfe, le vent, qui avait soufflé sur les vagues des cordages d'écume toute la nuit durant, mourut soudain et le ciel devint aussi blanc et grêlé de lumière qu'un os poli, à croire que l'air s'était vidé de toute sa couleur. Les mouettes, qui avaient piqué et plané au-dessus de mon sillage, prirent leur essor dans la brume, et la houle s'aplatit en une feuille ondulante d'étain liquide marquée par les fossettes des dos parcheminés des pastenagues. Ça te cite un petit peu le bonhomme déjà. Ça veut dire que quand on parle de polar, c'est pas forcément des trucs carton avec un détective privé qui cherche à résoudre une enquête. Ça veut dire que ça peut être des trucs qui sont super bien écrits également, super bien traduits aussi, hein, parce que là il s'agit de la version française d'un bouquin traduit d'un auteur américain. Qui s'appelle James Lee Burke. James Lee Burke, qui est né, qui est vachement vieux déjà, hein, il est presque 70 balais. Si, il a 70 balais passés, il est né le 5 décembre 36 à Houston, au Texas, mais très petit, hein, vers l'âge de 5-6 ans. Ses parents et lui ont émigré en Louisiane. La Louisiane, c'est situé juste à côté du Texas, en fait. Hein, c'est situé à l'est du Texas. Et donc, il grandit sur la côte du golfe de Louisiane. Il fait ses études au Southwestern Louisiana Institute et à l'Université du Missouri. Missouri qui est situé un petit peu en haut, hein, par rapport à la Louisiane, au nord. Il travaille, après ses études, il travaille dans le pétrole, normal, hein, en Louisiane, comme reporter et comme travailleur social. Et tout en écrivant des bouquins, il enseigne également dans les années 80 à l'université d'État de Wichita. Alors sa situation familiale est mariée à Pearl Burke. Donc il a une fille qui s'appelle Alafair Burke. Il vit parallèlement à New Iberia en Louisiane et à Missoula dans le Montana. Missoula dans le Montana, c'est pour le paradis des écrivains américains. C'est un petit patelin. dans le Montana, où on a une densité d'écrivains américains absolument incroyable. Là-bas vit également James Crumley, j'en connais pas des masses, mais enfin bon, il faut dire qu'il y a au moins je crois une quinzaine d'écrivains américains hyper connus qui habitent à Missoula, soit à plein temps, soit qui y vont comme ça, qui ont une petite maison. Et c'est marrant, bon, enfin j'ai déjà pu voir dans certains documentaires le petit bistrot qu'il y a à Missoula et tout, t'as que des écrivains polars qui sont là en train de siffler leur whisky ou leur bière, hein, tranquille, à discuter le coup du dernier match de foot. C'est donc Missoula. Alors, il commence à écrire en 1965, son premier bouquin s'appelle Half of Paradise, le deuxième en 70, le troisième en 71. Et ensuite, il y a une parenthèse de 11 ans avant qu'il ne se décide à réécrire, à ressortir un bouquin qui s'appelle Two for Texas. Puis il y a The Convict Two for Texas en 82, The Convict en 85 et The Lost Back Boogie en 86. Pour l'instant, ces bouquins ne rencontrent vraiment pas de succès. Ce sont des histoires, des one shot, hein, comme on dit. Et à partir de The Neon Rain, eh bien, on commence à voir un personnage qui deviendra son personnage fétiche et son personnage récurrent, à savoir Dave Robichaud, dont la particularité est qu'il habite à New Iberia, en Louisiane, et que pour présenter un petit peu le personnage, c'est un flic qui travaille donc pour le shérif du comté de New Iberia, et parallèlement à ça, il a aussi un autre boulot, il tient également une espèce de petite pêcherie, quoi. C'est-à-dire il loue des canots avec tout le matériel de pêche pour aller pêcher dans les bayous en Louisiane. Il y a également un petit coin où tu peux manger, un petit truc comme ça, quoi, qui est situé là où il habite. Donc il a deux boulots. C'est un ex de Vietnam. Alors sa particularité à lui, c'est que bon, il est parti au Vietnam dans les années 65-66.
Au début, ce qu'on parlait tout à l'heure.
Ouais, et sa particularité à lui, c'est que bon, il a eu un gros flash parce qu'il était spécialisé dans ce qu'on appelle les rats de tunnel. À savoir, c'était les sections qui étaient spécialisées pour aller nettoyer les tunnels souterrains que les Vietcong construisaient, dans lesquels tu avais carrément tout un réseau où les Vietcong pouvaient aller venir d'endroits à d'autres, mais sous la terre, quoi. Et donc lui, avec d'autres bien sûr, avec les autres de sa section, sa spécialité c'était de rentrer dans ces trous et justement de vider tout ce qu'il y avait de Vietcong et d'armes dans ces tunnels. Et ce qui lui arrive pendant la guerre du Vietnam, en fait, lors d'une opération, c'est qu'il se prend une mine en pleine gueule, quoi. Et donc il a un super flash, il croit qu'il va crever, mais bon, il crève pas, bah, heureusement, parce que sinon il aurait pas pu être le héros de toute la série de bouquins qui était écrite sous la plume de James Lee Burke. Son deuxième livre qui narre les aventures de Dave Robichaud après The Neon Rain, c'est Heaven's Prisoner, Prisonnier du ciel, en 88, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un film en 96 réalisé par Phil Joanou avec Alec Baldwin dans le rôle titre. Il y a Kelly Lynch, Mary Stuart Masterson, Terry Hatcher et Eric Roberts. Ensuite, en 89, c'est Black Cherry Blues qui obtient l'Edgar Awards. C'est pas n'importe quoi comme récompense, hein. C'est le prix le plus important en ce qui concerne la littérature de genre, hein, pour et donc il reçoit ce Edgar Awards en 90 pour le Black Cherry Blues pour le Best Crime Novel, un Edgar Awards qui va recevoir une seconde fois en 98, hein, pour Cimarron Rose, qui est une histoire dans laquelle il fait intervenir un deuxième héros, mais qu'on ne verra qu'à quatre occasions, hein, dans quatre aventures, Billy Bob Holland, hein, qui est un avocat, voilà, Billy Bob Holland, qui paraît donc dans 80 aventures, sorties en 97, en 99, en 01 et en 04. Au total, il a écrit 16 aventures de Dave Robichaud, c'est ce qui est pas mal, hein, ce qui est assez intéressant. Alors, la première, donc, Prisonnier du ciel, toutes n'ont pas été traduites en français, hein, c'est à signaler. Elles ont été traduites en français et sorties par Rivage, la collection de François Guérif. Donc le premier, c'est Prisonnier du ciel, il y a Black Cherry Blues bien sûr, Une saison pour la peur, il y a également Dixie City, La pluie de néon est sortie par la suite, alors qu'il est sorti Neon Rain avant Heaven's Prisoner, il y a La Rose du Cimarron, Le Boogie des Rêves Perdus, Purple Can Run, Sunset Limited, et on attend avec impatience le dernier sorti, hein, qui s'appelle The Tin Roof Blowdown, qui n'est pas encore traduit en français, qui est sorti cette année là en 2007 et qui traite, eh bien, actualité oblige, bien de l'après Katrina. En Louisiane, c'est normal, il était sur place, il a pu se renseigner. Alors, au niveau des histoires, hein, c'est tout à fait excellent, c'est tout à fait rentre dedans les histoires de ce flic qui est dans sa deuxième dans la deuxième partie de sa vie. Alors à noter que dans Prisonnier du ciel qui pose un petit peu les bases du personnage, c'est là qu'il rencontre Dave Robichaud, hein, ce qui va devenir sa fille adoptive, qui fait partie justement qui est prisonnière du ciel parce que elle est retenue dans un avion qui va s'écraser, mais au départ on croit à un accident, mais en fait non, l'avion a été saboté parce qu'on veut tuer toutes les personnes qui sont dedans, et donc une seule personne en réchappe, sauvée par Dave Robichaud, c'est cette jeune fille qui se prénomme à l'affaire comme sa propre fille, qui est d'ailleurs également auteur de romans et auteur de romans policiers. James Lee Burke, qui sera l'année prochaine à l'affiche également, dont on entendra un petit peu parler, parce qu'il a également écrit un livre qui est sorti en 93, me semble-t-il, qui s'appelle, c'est le titre vachement zarbe, tous ces titres sont vachement simples, et celui-là s'appelle Dans la brume électrique avec les morts confédérés, et qui est un livre absolument magnifique, In the Electric Mist with the Confederate Dead, et qui est un film qui va sortir l'année prochaine, dont le réalisateur est Bertrand Tavernier. Ah oui. Qui est allé tourner sur place donc avec Tommy Lee Jones, qui écrit également le scénario, hein, qui écrit le scénario d'après ce bouquin, qui joue le rôle de l'inspecteur Dave Robichaud, et il y a également dans ce film de Tavernier à sortir John Goodman, Justina Machado, Marie Steenburgen qui joue le rôle de la femme de Dave Robichaud, c'est-à-dire Bootsy, Alana Locke qui joue le rôle de l'affaire, il y aura Peter Sarsgaard, Kelly MacDonald, Ned Beatty, Prude Taylor Vince. Et pour les musiciens, parce que bon, ça se passe en Louisiane, donc forcément faut qu'il y ait de la musique, Levon Helm et Buddy Guy. Voilà donc pour James Lee Burke, c'est vraiment un des grands auteurs de polar américain en ce moment, hein, y a pas de problème, hein, c'est assez facile à lire, ce sont quand même des bouquins assez conséquents, hein, c'est des bouquins qui font 300-400 pages à chaque fois, écrits assez petits, mais ça se dévore du début jusqu'à la fin sans aucun problème. Voilà pour la partie un petit peu polar, donc à découvrir absolument, hein, si vous ne connaissez pas James Lee Burke, hein, les premiers bouquins parus en français sont sortis au début des années 90, hein, chez Rivage, vraiment ça se laisse lire. J'ai pas lu tous les bouquins, hein, mais j'en ai lu 5 ou 6 déjà de la série Dave Robichaud, mais vraiment, et on peut commencer par n'importe quel bouquin, c'est-à-dire il n'y a pas de suite, hein, il y a quelques références de temps en temps qui font revenir à des aventures passées, mais ça n'a aucune incidence dans les histoires proprement dites, hein, donc ou très peu, quoi, je veux dire, c'est vraiment très très bien traité, donc c'est à découvrir absolument. James Lee Burke, donc. Maintenant parlons un petit peu de série, et comme j'avais décidé de vous faire un petit peu de polar,
aïe, aïe, aïe.
Et qu'il y a quand même une petite actualité sportive en ce moment, hein.
Oh t'inquiète, hein, et bientôt
ça va peut-être pas durer.
Alors on va faire que les séries, hein, il y aura pas de films et tout, pourtant il y avait quelques Chuck Norris à l'affiche, oh, cette semaine et tout, mais bon, laisse tomber, quoi. Pour une fois, il y a de l'inédit, c'est normal, hein, c'est la rentrée avec eh ben pas de gros blockbuster, hein. Si, il y en a un, mais bon, vous verrez. Je le programme pour la fin. Il y a tout d'abord sur W9. Alors c'est marrant parce que bon, c'est une série complètement inédite qui a rencontré un succès, qui était programmée sur une chaîne du câble aux États-Unis et qui, vu son succès, a été rachetée par une chaîne hertzienne aux États-Unis pour être vue par le plus grand nombre, et qui est malgré tout soi-disant un petit peu décevante, hein, d'après les premiers créneaux. Enfin bon, on sait que les Américains et les Européens n'ont pas vraiment les mêmes goûts, ni les mêmes références culturelles, on va dire. Il s'agit de Kyle XY, Kyle XY, qui est interprété par Matt Dallas, qui joue donc le rôle de Kyle XY, et également par Marguerite McIntyre. L'histoire, elle est simple, elle rappelle un petit peu celle de John Doe au départ, hein. C'est un adolescent qui se réveille dans une forêt, il est découvert par la police, il est pris en charge par un psychiatre, et en fait, Cet adolescent ne connaît pas les sentiments humains tels que la joie, l'amour, la haine. Il comprend pas l'utilité de dormir et tout. Il n'a pas de nombril. Et là, on se dit, ah, c'est peut-être un extraterrestre. Mais ça, ben, on le saura au fur et à mesure des épisodes. C'est diffusé par W9, ce qui est vachement marrant parce que bon, on se serait dit que comme c'est M6 qui a les droits, ben, M6 W9 c'est à l'envers, hein, c'est retourné quoi.
Ouais, oui, mais okay, c'est pas la première fois qu'ils essaient des séries
ouais,
d'abord sur
ça,
W9.
Là, ils font le test sur W9 avant de savoir si ça marche, et si ça marche, ben on pourra la voir certainement sur M6. C'est diffusé à partir de mardi prochain 20h45 avec les deux premiers épisodes dont le pilote qui s'appelle Renaissance et le deuxième qui s'appelle Nuit Blanche. Donc Kyle XY mardi prochain sur W9. Sinon la grosse le gros truc de la rentrée qui a fait beaucoup parler de lui aux
États-Unis. La ferme.
Non pas du tout. Non.
Secret Story.
Et qui
IT Crowd
qui en fait est l'une des séries qui essaye de renouveler avec la gloire passée de HBO hein, qui nous avait fait les fleurons du genre hein, quand même hein. HBO c'est quand même les Sopranos j'en passais des meilleurs mais bon c'est HBO quoi et ils étaient un petit peu en perte de vitesse hein. Il y a d'autres chaînes qui sont en train de rattraper un petit peu qui sont en train de sortir des séries un petit peu plus audacieuses plus inventives que HBO et là HBO eh bien s'est dit que avec Big Love ça allait peut-être casser la baraque. Ça a cassé la baraque, effectivement, parce que l'histoire, elle est vraiment assez tordue, on va dire, surtout dans le monde de Q-Terreux et de Q-Béni qui est à l'autre côté de l'Atlantique. C'est l'histoire d'un mec qui a trois épouses et qui donc se partage avec entre ses trois familles. Hein, trois femmes avec les gosses et tout. Il n'est pas mormon, alors c'est pour ça que les mormons ont gueulé quand ils ont râlé. Ils ont dit « Ouais, vous donnez une image déplorable ».
De notre communauté,
c'est pas bien, nanana, et tout. Alors qu'en fait, il s'agit vraiment un petit peu d'une satire de la famille en général. Hein, comment on peut traiter la famille et tout. On sait
comme Getting Married.
Tu parlais avant de la guerre des mondes et tout, famille recomposée et tout, la famille qui se réunit toujours à la fin, c'est génial et tout, c'est ça le fondement et tout de la société. Et là, bon, bah, ok, là, il y a également, ce ne sont que des histoires de famille, mais il y a trois familles. Hein, et donc, comment on fait pour jongler de l'une à l'autre. Alors, le casting est d'enfer de toute façon, avec Bill Paxton dans le rôle du mari, il y a Chloé Sevigny, Jane Triplehorn et Jennifer Goodwin dans le rôle des trois femmes. Ça a été créé, produit et scénarisé par Will Schaeffer et Mark Olsen. Et c'est diffusé donc par Canal+, jeudi prochain à 22h15, après la nouvelle saison de Desperate Housewives. Sinon, du côté de l'inédit toujours, eh bien, une série dont j'ai parlé la dernière fois... que la dernière fois, il y a trois semaines, donc avant que je parte en vacances, c'est Boulevard du Palais, dont un inédit arrive sur la 2 vendredi prochain. Hein, c'est du tout frais du 2007, hein, donc c'est à ne pas manquer, avec la magnifique Anne Richard, Jean-François Balmer, excellent, Philippe Ambrosini. C'est vendredi prochain sur France 2. Le titre de ce téléfilm s'appelle, parce que là, il ne s'agit pas de format 52 minutes, comme les formats américains, là, c'est plutôt le format téléfilm, c'est-à-dire 1h30, 1h40. Et après, on a droit à avocat et associé, mais enfin bon, ça se regarde aussi. Mais là, Boulevard du Palais, là, c'est vraiment à ne pas manquer. Anne Richard qui joue le rôle d'une juge d'instruction et qui bien, mène des enquêtes, on va dire, en compagnie de Jean-François Balmer qui joue le rôle d'un inspecteur un petit peu désabusé, assez au bout du rouleau, qui picole à partir de 9h du matin, qui a une vision très pessimiste du monde, mais qui est absolument excellent, hein, vraiment très très bon, quoi. De toute façon, c'est à ne pas louper, c'est vendredi prochain, Boulevard du Palais. On va rester en France avec, et là c'est plus pour la déconne, parce que bon, je sais pas ce que ça va donner, mais enfin bon, je serai pas de ma télé pour regarder ça. C'est L'Hôpital. On avait eu Grey's Anatomy et toutes les séries médicales. Grey's Anatomy qui, paraît-il, est un petit peu la référence de L'Hôpital, bien que les scénaristes, producteurs et créateurs de cette série L'Hôpital, mini-série, hein, 6 épisodes par saison, Céline et Martin Guillot disent avoir écrit cette série avant d'avoir visionné des épisodes de Grey's Anatomy pour ne pas être influencé. Donc ok, on va leur laisser le bénéfice du doute quand même, hein. Martin Guillot qui est quand même scénariste de Femmes de loi sur TF1 et Suspect sur M6, sacrée référence quand même. Alors ça nous propose de suivre le parcours de jeunes internes en médecine qui vont faire leur premier pas justement dans un service.
du déjà vu, déjà connu au niveau de l'histoire. Mais enfin, on va voir comment c'est traité à la française. Interprété par Mélissandre Mertens, Léa Bosco, Yannick Soulier, Jean-Baptiste Marcenac et Farid Bentoumi. Ensuite, bonne nouvelle, Xavier, tu vas être content mercredi prochain sur M6 à 23h10, saison 2 de The Unit avec Denis Iceberg, Robert Patrick et tous les autres pour de nouvelles aventures. Ça cartonne à fond les manettes. C'est une très bonne série, moi je trouve.
Ah, il faut avouer quand même qu'elle est très très bien écrite. Elle fait vraiment le doute hein, des fois sur l'honnêteté de certains.
Hein, ouais, parce que bon bah.
Parce que tu te dis mais putain mais l'autre il va le buter en mission à la première occasion venue. Et tout
ouais,
ça.
Ouais, parce que bon c'est pas il y a des trucs qui sont pas nets, c'est bien amené on va dire. Hein, on suit le quotidien d'une unité spéciale de l'armée américaine, une unité d'élite hein, bien sûr, hein, qui intervient sur des conflits ou sur des trucs un petit peu chauds, que ce soit à l'intérieur du territoire ou à l'extérieur du territoire, hein, quand il s'agit de nettoyer, de récupérer des gens. Alors ils partent un petit peu n'importe où. En Philippines pour récupérer des gens comme ça et parallèlement à ça bien, on assiste également à la vie de famille hein, parce que bon bah, il faut savoir que comme c'est une unité spéciale bah, ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils font ni avant ni après hein, donc les familles ne sont pas au courant de ce qui se passe mais savent qu'ils prennent des risques énormes et qu'à tout moment ils risquent de ne pas revenir et donc ça nous raconte la vie de ces familles qui sont également qui n'ont pas le droit d'habiter à l'extérieur de la caserne qui doivent habiter à l'intérieur de la caserne dans des maisons spécialement aménagées, enfin bon, pas dans les casernements.
Non, c'est, ouais, enfin,
c'est des petites maisons, cosy,
c'est un petit lotissement.
Sympa, hein, mais à l'intérieur, quoi, tu vois. Donc, c'est assez rigolo, hein, parce que bon, dans la première saison, il y a aussi l'histoire où ils essaient de faire une cagnotte, ils essaient d'arnaquer une banque ou une compagnie d'assurance et tout, c'est assez rigolo, quoi.
Ouais, et puis en fait, ils sont complètement à voir à cause d'une histoire de vente de maisons qui. Illégal, enfin bon, c'est effarant.
C'est pas mal, c'est bien écrit, hein, de toute façon. Ouais. Donc, mercredi prochain sur M6 à 23h10, deux épisodes en territoire ennemi. Alors là, ça se passe au Pakistan et la chaîne des tueurs. Ensuite, du côté des nouvelles saisons, hein, inédites, donc sur Canal Plus demain soir à 20h50, Cold Case, la saison 4 avec un seul épisode, Rampage. Et repérez bien, parce que bon, on connaît maintenant les personnages de Cold Case, hein, Catherine Morris, c'est Lily Rush, John Finn, c'est le patron, et Danny Pino, bien sûr, hein, le latino là qui tire sur tout ce qui bouge là. Mais est-ce que vous l'avez reconnu dans The Shield ? Parce qu'il joue également un rôle récurrent dans The Shield, dans la première ou la deuxième saison. Il joue le rôle de Armadillo, l'un des Mexicains qui se fait cramer la gueule sur la plaque chauffante. Le mec qui est vraiment méchant, qui manque de tuer l'un des partenaires de la Strike Force, du Strike Team de Michael Chiklis. C'est Danny Pino qui interprète le rôle de Armadillo. On peut dire là qu'il est passé d'un registre à l'autre, mais alors vraiment sans aucun problème, c'est pas mal, hein, c'est quand même assez grand. Et Cold Case, donc, il faut, je le rappelle, et je le rappelle à chaque fois, hein, qui est une production Bruckheimer, hein, Bruckheimer qui a honteusement pompé sur cette excellente série canadienne qui est Cold Squad, qui est diffusée tous les vendredis soirs sur TMC, très tard, mais c'est con, mais
surtout qu'ils en passent 3 à la suite, donc
4 épisodes vendredi prochain, quoi. Donc, ça 3h du mat, tu vois.
Ouais, ça commence à 23h, 3h du matin. Je vous dis pas dans quel état on arrive pour faire cette émission, hein.
Ouais. Non, mais bon, ça vaut vraiment le coup, hein. Interprété par Julie Stewart, Tamara Craig, Thomas et bien d'autres.
T'oublie pas, Thomas. Le 13, TMC et France 4 changent de position, hein. T'oublie pas de reprogrammer ton capteur TNT.
Ensuite, histoire de se pisser dessus de rire, Sifi nous programme l'intégrale d'une série mercredi prochain à partir de 22h20. Bon, alors il s'agit d'une série sortie en 1997 suite à l'immense succès du film en 94 de Peter Hyams, Time Cop, avec Jean-Claude Van Damme.
Ouais, immense succès.
Immense succès. Eh bien, ils ont décidé d'en faire une série. Hein, c'est sur ABC que c'est sorti en 1997. Mais bon, ils ont vu que la série ça
encore,
marchait pas.
Encore
trop.
Un film où Van Damme joue un double rôle.
Ouais.
Qui fait le futur et le passé. C'était le film qui m'échappait la dernière fois.
Et donc,
va falloir faire un top 5.
Et donc de cette série, il est sorti que 9 épisodes qu'on pourra voir donc intégralement mercredi prochain sur Syfy à partir de mercredi 22h20, interprété par T.W. King, Christy Conaway et Don Stark, Time Cop donc sur Syfy. Mercredi prochain. Sinon, pour ceux qui l'ont jamais vu, mais qui en ont souvent entendu parler, jetez un œil, parce que c'est quand même une série excellente, il faut le dire. Bon, maintenant, les costumes, l'ambiance, ça va paraître un petit peu
kitsch. C'est du sport, il faut faire des coupes des fois. Hein, avant de dire sinon, tu m'aurais laissé le temps de remonter le potard pour que tu respires un peu.
Ouais, non, ça va. Voilà. Ça va, parce que c'est un petit peu dans le même genre, c'est également une série d'anticipation. Il s'agit de V.
Oui,
bravo. Qui est diffusé donc, qui sera diffusé sur Énergie 12 jeudi prochain à 22h50. Et là, on commence par le début, c'est bien, c'est intéressant. Donc, le téléfilm pilote donc sur Énergie 12.
La fameuse série qui est à la fin la plus merdique jamais faite.
Alors ça commençait bien, ça commençait par
Exterminate. Exactement, ouais. Et série créée en 83 par Kenneth Johnson, qui nous a fait également Hulk, Super Jamie et Alien Nation. Alien Nation, oh, putain, une série injustement sous-estimée, moi je trouve. Passons maintenant à du gros, on va terminer par du gros et du pas marrant, quoi. Avec tout d'abord la rediffusion d'un des monuments de la télé anglaise, là ça vaut le coup vraiment, hein, on s'en lasse pas, quoi. Parce que moi j'ai commencé par voir les derniers épisodes et là je me regarde les premiers et tout, je connais la fin, je sais ce qui va arriver, mais c'est pas grave, hein, ça te rentre dedans, quoi, c'est incroyable. C'est bien entendu State of Play, cette excellente mini-série de la BBC avec John Sim, l'iPhone Mars, dans le rôle principal, David Morrissey. On y retrouve également Philippe Glenister, d'ailleurs, dans cette série, hein, c'est assez rigolo. Avec des cheveux en moins, et puis bon, on met toujours le même accent. Et là, c'est vraiment très très intéressant, l'histoire de deux morts au départ qui n'ont rien à voir l'une par rapport à l'autre, et qui sont suivis par un reporter qui s'intéresse de près aux agissements de son pote député à la chambre des Lords en Angleterre, hein, c'est-à-dire le House of Parliament à Londres.
Non, le House of Parliament, c'est celui qui regroupe les deux assemblées. Après tu as le Parlement et tu as la chambre des Lords.
Oui, mais enfin bon,
c'est pas la même chose.
Oui, mais bon, c'est pas grave.
Ouh, tu vas me regarder l'intégrale de The New Statement, toi.
Mais je l'ai regardé l'intégrale. En fait, pas.
Oh là là.
En live and direct. Et donc, on rentre dans ce truc. C'est absolument fascinant. Hein, c'est un travail d'enquête de la part des reporters, également de la police et tout. Rebondissement à n'en plus finir. Enfin, pas à n'en plus finir, mais justement placé quand il le faut. Hein, c'est vraiment de la très grande télé, quoi. State of Play, donc ça a été diffusé donc lundi dernier, mais il y a une rediff sur Canal Jimmy ce soir à 22h15 avec les deux premiers épisodes donc de cette magnifique mini-série, et lundi prochain donc les épisodes 3 et 4 de cette série qui en comporte 6. Sinon, si vous avez loupé, bah, c'est dommage, hein, parce que nous repassait justement l'épisode 1 et le dernier épisode de la première saison de Criminal Minds, Esprit Criminel, c'est sur TF1 tous les mercredis à 23h10, c'est-à-dire après les CSI machin, ou après le match de foot. Le mercredi prochain, ce sera après le match de foot, hein, France-Écosse.
Oh là là.
Mercredi dernier, donc, c'était le dernier épisode de la saison 1 et le premier de la saison 2, puisqu'il y avait un cliffhanger qui tue de la mort de l'enfer à la fin de la saison 1. Et là, bon, on a pu voir les deux de suite. Là, c'est vraiment TF1 pour une fois. Chapeau, les gars. Bien joué. Vous les diffusez à la suite, comme il faut. On commence à rêver. Non, on rêve plus, hein, depuis qu'on sait que c'est Gilardi qui commente le rugby. Là,
c'est du sport. N'écoutez pas du sport. Il ne dit que des horreurs. Il est pire que moi.
Avec Thierry Lacroix, ça fait pas mal de Thierry quand même sur TF1.
Ouais, mais enfin bon, heureusement qu'il y a Thierry Lacroix.
Oui. Quoi. Ils auraient pu récupérer Thierry Ardisson.
Alors, Criminal Minds, donc suite de la saison 2 sur TF1 mercredi prochain à 23h10 avec le numéro 2 et le numéro 3 de la saison 2. Et ouais, il est un quart d'heure, donc j'ai pas le temps de vous parler de Prison Break dans la saison 2.
Oh, bravo.
démarre jeudi prochain sur M6 à 20h50 avec le premier et le deuxième épisode de la saison 2. Le premier de la saison 2, on l'avait déjà vu, hein. Ouais.
Un nouveau générique, toujours par Faflarage apparemment, mais.
Ouais, mais il est plus pourri que le premier. Moi, je préférais le premier, franchement, quoi.
Bah, le premier était pas mal, le deuxième est pas trop mauvais non plus, hein.
Ouais, mais attends, t'as vu le clip là déjà?
Bah, tu sais, si tu as vu le clip de générique français de Heroes en entier, enfin, si t'as écouté les paroles,
En plus, tu vois le clip, on n'a pas vu la saison 2, tu vois le clip, t'as plein de trucs qui sont. T'as plein de trucs qui sont spoilés dans le clip et tout. Tu sais que T-Bag il va se faire crucifier, quoi, par Wentworth Miller déjà, quoi, tu sais, genre là allez, je te plante des trucs au sol, quoi, sur le parquet et tout, quoi. Ouais, non mais bon, attends,
merci pour ceux qui ne l'avaient pas vu du sport.
Il suffit de voir le clip, hein, je sais pas, quoi. C'est tout. et ouais. Donc j'ai pas le temps de vous en parler plus que ça, quoi. Prison Break, c'est jeudi prochain 20h50 sur M6.
Oh là là, mon dieu, mais c'est l'émission numéro 126, la première de la quatrième saison. Thomas, peux-tu faire le résumé pour ceux qui sont arrivés en cours de route?
Eh bien oui, nous avions le plaisir de recevoir, de voir arriver du sport en chemise à fleurs. Alors, on a eu de la BD malsaine, un top 5 sur les duels cinéma, du docu militant, la vie d'un auteur de vrais livres policiers sans images, un enchaînement en chansons par du sport sur Prison Break et du dépassement... comme d'hab.
Modéré là, parce que quand même du sport là se presse. Faut prendre la suite des programmes avec de suite, donc ça c'est du sport. 17h Big Bang, 18h Vie d'ordure, 19h on est chez nous, c'est l'heure de l'apéro, 20h la Cité Expérience, c'est l'heure de l'électro, 21h30 Stay Tuned to YouTube Step, et à 23h du live avec le potager. Nom d'une mêlée, si vous avez loupé les chroniques de cette émission, et si vous souhaitez réécouter l'intégralité de cette émission avec les chroniques écrites, mais aussi vos commentaires, vos questions personnelles, n'hésitez pas, on répond. Vous allez chercher sur internet Supplément Week-end et vous tapez FMR, Supplément Week-end FMR, Supplément Week-end MP3, Supplément Week-end Podcast, pas de soucis, vous le retrouvez. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure et peut-être même fréquence. Voilà, ciao, bye bye, see you.
Ciao.